Amis du Radio Silence, bonjour. Nous sommes c'est le 31 juillet, hein, le dernier jour du mois. Je suis Élise Bock, je vous parle depuis le Cameroun, toujours où je suis en quelque sorte stranded parce que figurez-vous que l'affaire du coronavirus se transforme en une sorte je vais pas dire de cauchemar, mais c'est devenu une sorte d'épouvante, c'est ça, qui fait que bon, les billets d'avion se sont envolés après un confinement et la fermeture des frontières et tout ce que vous savez sur l'économie qui est devenue, je sais plus quoi, pirate, et on crée la fausse monnaie, on vous finance là-bas à l'étranger. Je dis l'étranger parce que je suis à Yaoundé, et ici on peut pas financer parce que l'économie est informelle, la gouvernance est ce qu'elle est, ça accroît les différences et ça accroît les logiques qu'on peut appeler démocratiques qui ne sont pas universelles, alors qu'on le voudrait bien, et que beaucoup de gens essayent de plaider pour une démocratie à l'africaine. Alors voilà, la démocratie à l'africaine, c'est donc ce coronavirus qui arrive, et les gens ne sont pas indemnisés, comme en Europe ou aux États-Unis. Alors bravo, bravo, bravo. Ce que je voulais dire, c'est que ce coronavirus, il a des conséquences, mais c'est même pas le mot que je voulais utiliser en Afrique, hein. Bon, intellectuellement, c'est un peu court. Et du coup, on perd même son latin, on perd la nuance, on perd l'élégance du propos. Ça fait partie de ce que l'environnement niait, je veux dire, l'environnement sans énergie. Sans culture produit ici, parce que tout est politique, tout est protocole politique, tout est nomination. Tous les jours, on a nommé, on a nommé, on a nommé. Et en dehors du politique, ben, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie. Et ce que je déplore fortement, mais il n'y a rien à faire. Hein, il n'y a rien à faire, mais si on peut finir par le Cameroun avant de passer aux États-Unis, on dira qu'il y a eu un mouvement culturel qui est arrivé comme ça pour occuper un peu les esprits et les sortir je vais pas dire du ronflement, mais on s'ennuie au Cameroun. Pour ne pas sortir de là, on avait parlé de la décentralisation. La décentralisation, un mouvement qui a fait beaucoup de bruit en France. Là, vous voyez, ça marchait, on a recopié, hein, mais pas ce qui se passe pour traiter le Covid. Donc la décentralisation, elle était annoncée hein, comme ce qui ferait, qui va relancer la politique, le développement, l'économie, tout ce que vous voulez, relancer la politique autrement. On se retrouve depuis février, pratiquement 6 mois après, il n'y a rien. Il n'y a rien parce qu'on installe à peine les équipes, c'est pas le collectif gouvernemental, là, on l'installe à peine, là, bah, quels sont les projets? On ne sait pas trop, on n'en parle presque plus. Et ce qui est triste, c'est que après coup, alors que avant les candidatures, on avait bien exigé un certain niveau de formation, peut-être initial probablement, sûrement, et puis politique, si on veut. Mais ici, l'initiation formation politique, c'est un peu ça, pas du tout. De comparaison avec ce qui se fait ailleurs. Ici, c'est un peu une forme de copinage accentué et de cooptation qui fait que bah, plus vous cirez les pompes, plus vous allez y arriver, quoi. Et du coup, on a des élus qui sont vraiment côté diplômés, très très justes et qui ont une expérience politique, comme je vous ai dit, cirage de pompes. Ça, c'est très douteux pour la suite. Et bon, la décentralisation, elle n'a même pas commencé, qu'elle n'existe plus pratiquement. Voilà, donc on n'en parle plus. On regarde, mais ça sera vraiment pas, ça sera insuffisant pour lancer le développement. Mais bon, on veut bien qu'il y ait des surprises. Moi, personnellement, je m'occupe plus trop de la politique camerounaise parce que c'est un micmac, il faut avoir été là pour comprendre. La bonne nouvelle, c'est que la diaspora, peut-être qu'on va reconnaître à la diaspora finalement la double nationalité. Et si c'est le cas, bah, ce serait peut-être ça l'élément fondateur du changement au Cameroun. Bon, on attend. Il y a un texte enfin, il y a eu des fuites sur un texte de loi qui va passer probablement d'ici peu, on ne sait pas, parce qu'ici aussi c'est l'Afrique, les délais sont terribles, on ne sait pas, on annonce tel délai et puis ça ne se passe pas. Si tel est le cas, ce serait vraiment la chose qui va, voilà, ce serait, comme je vais dire, le chaînon manquant qu'on aura trouvé comme cela, parce qu'il faut vraiment que la diaspora revienne, je ne vais pas parler pour les autres pays, mais au Cameroun. C'est un peu, bon là, on ne comprend pas trop, on n'a pas de vision, on semble en avoir une, peut-être que les initiés en ont une, mais celle qu'on a, vraiment, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Et on verra bien. Moi, je dis plus rien. Je veux dire, je dis plus rien dans le sens où tout ce que je disais avant semblait être dramatique, je dramatise plus rien. Alors, moi, ce qui m'intéresse pour ce flash, c'est ce qui se passe en Amérique. Vous voyez? Alors, hier, M. Trump, le président Trump, a poussé un accélérateur parce qu'on parle maintenant de l'hypothèse d'un vote par email, vous vous rendez compte, aux États-Unis, où on vote le même jour tous les congrès, tous les représentants, tous les maires, tous les gouverneurs, etc. Faire tout cela par mail, c'est absolument suicidaire, ça ressemblera à rien. On nous dit c'est quelque chose qui a été exploité ou exploré ou expérimenté, c'est plus juste, par certains États aux États-Unis. Mais pardon, on est dans un État. Là, on parle d'une élection présidentielle et on parle d'une élection générale. On ne parle pas d'une localité qui élit ses gars. C'est quelque chose de grand. Et là, on voit se dessiner quelque chose qui n'est pas bien. Qui n'est pas bien parce que le Covid-19, il est arrivé d'abord comme une chose, voilà, sortie de nulle part, et ça ressemble de plus en plus à un coup ou à un complot ou à une forme de gagner frauduleusement l'élection. Mais à peine le président Trump a posé donc la question, et d'ailleurs, il faut remarquer, hein, il y a eu plusieurs étapes. On a commencé par l'impeachment, l'impeachment qui a échoué, puis. On est passé, bon, de toute façon, M. Trump, il est dégradé systématiquement. On est passé par le confinement, le Covid qui est arrivé, c'est après l'impeachment. Ça, il faut toujours regarder la succession des faits. Le Covid arrive, il sort de nulle part. Les gouverneurs montent contre le président, donc c'est le confinement. Tout est bien pensé. Je veux dire, c'est du Orwell, soit George Orwell, qui a écrit sur la façon de tronquer la démocratie et la république et tout ce que vous voulez, l'idée du progrès. Après ça, on confine et puis finalement, il y a encore des États qui sont confinés. On n'en sort pas du confinement. Ce qu'on oublie dans toute cette affaire-là, c'est que quand même, à New York, par exemple, on a vu des navires de guerre, hein, sortir pour servir d'hôpitaux. Alors, si on est en état de guerre, à ce moment-là, on ne vote pas. Ça paraît évident. Et donc, le président, il dit, on va reporter probablement l'élection parce que tout le monde se joue là au niveau de la gestion du virus, enfin de la crise du Covid-19. Et donc, forcément, ça va porter. C'est trop facile, c'est trop facile avec les médias qui disent oui, mais bon, voilà, il va reporter l'élection parce qu'il en parle dans les sondages. On sort même de la question fondamentale qui doit être posée, oui ou non, peut-on faire un vote crédible? Peut-il avoir lieu en temps de guerre? Ça, c'est un, parce que là, les gens sont confinés, ils vont voter chez eux, et puis ceux qui sont dehors, je sais pas où ils vont voter, parce qu'on dit la distanciation sociale. Déjà, en temps normal, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à voter parce que pour X raisons. Alors là, ça va être quoi? Donc, ça va être quelque chose de totalement illisible. Et puisque l'empire, je vais appeler ça comme cela maintenant, technologique est pro-démocrate, vous voyez très bien tout le travail qui va être fait, hein, par les Google, par tous ceux qui peuvent manipuler le vote. Et d'ailleurs, on a eu des soupçons de cela. Lorsque les derniers temps, Bernie Sanders, c'est l'élection d'avant, là, il y a 4 ans, Bernie Sanders qui devançait largement Madame Clinton. On a vu que les dernières primaires allaient toutes à Madame Clinton de façon absolument inattendue et surréaliste. Alors, il y a eu des soupçons de manipulation technologique des votes. Et on parle aussi toujours de l'État de New York qui a organisé un vote par email pour les primaires. Il n'y a toujours pas de résultat jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, la technologie. Alors, la question aussi qui vient après, je disais que lorsqu'on avait écrit la Constitution, évidemment, on n'était pas près d'avoir pensé que, il y aurait quelque chose comme la technologie et les emails. On peut pas, évidemment, les gens disent la Constitution n'a pas prévu cela. Ben oui, ça faisait partie de l'imprévisible. Alors aujourd'hui où on a cela, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ajoute, enfin, est-ce qu'on reste dans la logique de la Constitution qui veut que nous allions voter comme ça, publiquement? Ou alors on inclut les emails, les évolutions technologiques, sachant que tout cela est sujet à fraude massive, parce que tout simplement il y a eu un progrès, entre guillemets, qui n'en est vraiment pas un, parce que tout ce qui est empire technologique fonctionne avec tout ce qui est empire médiatique, et c'est le collectif précisément contre le président Trump. Et comment voulez-vous que, je veux dire, il faut qu'on sorte de cette logique des modes pour rester dans l'esprit de la loi et de la Constitution. Si la Constitution dit que même en temps de guerre, il y a élection, oui, à ce moment-là, on suspend le confinement, tout le monde va voter normalement. Normalement, il n'y aura pas de problème. Mais si la Constitution dit qu'on peut suspendre l'élection, ben, on suspend l'élection. Et là, dans le cas où il faudrait aller dans les bureaux de vote, dans les États où le confinement a toujours cours, qu'est-ce qu'on fait? On lève le confinement, on ne lève pas, parce que les gouverneurs dans ces États-là sont mordicus, clairs là-dessus, qu'on ne lève pas l'état de confinement. Vous voyez, on arrive toujours à des blocages, et il va donc falloir une réflexion, mais malheureusement, et heureusement pour le président, c'est que cette question-là, c'est pas lui seul qui la tranche, c'est aussi une question qui passe par le Parlement, enfin le Congrès. Et puisque les démocrates sont probablement majoritaires, vous voyez qu'ils veulent que Joe Biden passe parce que pour lui, le Covid-19 qui a été préorganisé justement à cet effet, c'est-à-dire pour qu'il gagne. Qui a intérêt à ce que la machine continue. Je ne vois pas pourquoi les démocrates qui ont tellement huilé leur machine vont se rétracter ou probablement suivre la voie d'un report des élections. On va donc avoir un débat comme on a eu hein, sur l'impeachment, très abracadabrantesque, je pense au président Chirac. Et de toute façon, ça sera faussé d'avance, on sait très bien, c'est pour cela que je vous ai cité Orwell. Et on sait que le processus orwellien est un processus qui conduit nécessairement à transformer les gens en race canine. Et vous avez vu la fin du roman, comment ça se termine, chacun va à sa niche, très bien. Ou alors les gens marchent, ils marchent, on suit le mouvement. Les affects n'existent plus. Le président Trump dit que personne ne l'aime, mais personne ne peut l'aimer. L'amour, ça n'existe plus. Ce qui existe maintenant, c'est l'amour de l'argent. Alors j'ai trouvé, quelqu'un m'a envoyé, un ami sur Facebook m'a renvoyé une citation d'une dame. Alors, j'ai pas son nom, un docteur, une femme docteur, psychanalyste, et qui a dit qu'avec l'argent, on peut acheter une maison, mais pas un foyer. Cette psychanalyste disait donc qu'avec de l'argent, on peut acheter une maison, mais pas un foyer, qu'avec de l'argent, on peut acheter des médicaments, mais pas la santé, qu'avec de l'argent, on peut s'acheter des plaisirs, mais pas du bonheur. Et elle terminait en disant que la pensée est un processus créateur et que nos pensées créent en nous un certain nombre de, comment je vais dire, de besoins ou plutôt formatent une attitude et des comportements, parce que si nous avons une pensée négative, nous avons forcément des attendus. Et quand nous avons ces attendus plus ou moins négatifs, nous créons notre propre misère, nous créons notre propre malheur et nous créons notre propre enfer. Alors, voilà, c'est quelque chose à méditer. Comment nous créons nous-mêmes par là des pensées négatives et comment je vais dire, et haineuses, notre propre enfer et notre propre douleur sur terre. Tout cela pour dire que nous avons besoin parfois d'être un peu honnêtes, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour le bien de l'humanité, afin d'éviter tout ce stress inutile qui est produit dans la vie aujourd'hui, parce que les sociétés sont violentes et parce que tout ce qui a été fait et conçu institutionnellement est déformé, et tout cela pour satisfaire une élite qui se croit exceptionnelle, qui se croit autorisée, voilà, à tout dévier, à tout pervertir, voilà le mot, et à dire une chose et son contraire, tout simplement parce que cela correspond à son intérêt, et même à créer des virus mortels et des vaccins mortels. On a vraiment un moment dans la civilisation qui est assez, comment je vais dire, assez triste et désolant, parce que ça crée la désolation partout. Tout cela parce qu'on a besoin d'argent, on aime l'argent. Et je vais finir quand même par le gouvernement de la France qui reconduit Madame Bachelot, par exemple, ministre de la Santé, puisqu'on parle du Covid-19, tout simplement parce qu'elle s'était trompée dans le temps et elle avait acheté beaucoup de masques au moment de la grippe, je crois, H1N1, là. C'était un fiasco. Et puis, heureusement, il paraît que la France est très pauvre, elle n'arrivait pas à avoir des masques. Heureusement qu'elle les avait commandés. Donc, ça a beaucoup servi. Alors, du coup, je n'ai pas dit qu'on couronne un peu les erreurs. Voilà, plus vous faites des erreurs, plus vous faites du n'importe quoi, mais plus vous serez rappelé au gouvernement. Au passage, on note que on nous parlait de la jeunesse triomphante qui connaissait tout, et puis là, patatrac, on rappelle les plus âgés. Bon, il faudrait que nous acceptions, parce que j'ai vu en Martinique là-bas, ils déboulonnent la statue, la rue Victor Hugo, ils la débaptisent. Ce sont des, je sais pas, des gens du peuple. C'est tellement triste parce que on mélange tout. Tous les héros de la Bible ont eu des moments de faiblesse. On pense à David, on pense au roi Salomon. Et ça n'empêche pas que ça reste des êtres d'exception, ça reste des grands. Personne n'est parfait. Mais en déboulonnant Victor Hugo, c'est quand même le comble de la bêtise. Parce que Victor Hugo, peut-être qu'il a dit que les Noirs, c'était une sous-race, etc. Mais c'était le moment et le contexte. Et il faut toujours contextualiser à la limite déjà dans la limite de ce qu'il savait, de ce qu'était la connaissance et de ce que les politiques disaient aussi. Mais Victor Hugo n'a jamais fait de mal à une mouche. Et si on le suit, on voit bien que c'est quelqu'un qui combattait les inégalités sociales, c'est quelqu'un qui était pour la justice sociale, c'est quelqu'un qui est exilé, je veux dire, c'est quelqu'un qui a eu un parcours difficile pour combattre pour le peuple. Le peuple est tellement ingrat que les Martiniquais, moi j'ai envie de dire, voilà, s'ils sont tellement contre Victor Hugo, je m'excuse pour eux, bah il fallait déjà suivre Aimé Césaire et puis surtout, il faut réclamer son indépendance, tout simplement, comme dirait Raymond Barre. Amis de Radio Silence, c'était Elise Borg, vous avez écouté Flash sur le monde, et je vous dis à bientôt.